avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le gouvernement prend le risque. Il confirme le prélèvement de l'impôt à la source pour le 1er janvier prochain. Nous analyserons ce changement pour les contribuables et cette décision politique qui permet à Emmanuel Macron de reprendre la main.
Après ce journal, Frédéric Seitz, dans son billet politique, reviendra sur le rôle d'Édouard Philippe qui a pris la parole hier soir sur ce prélèvement à la source, d'où son constat. Le Premier ministre est l'homme à tout faire du gouvernement.
Avant cela, retour sur le remaniement annoncé. François de Rugy à l'écologie, l'ancienne nageuse Roxana Maracineanu au sport. Cette fois, l'exécutif subit.
En Espagne, le président catalan Quim Torra demande un référendum reconnu par Madrid. Il appelle aussi les Catalans à se mobiliser la semaine prochaine, vous l'entendrez.
Et puis la région rebelle d'Idlib en Syrie attend l'offensive du régime. Les États-Unis préviennent, une éventuelle attaque chimique entraînera une réaction de Washington.
La réaction se fait un peu attendre, mais... peut-être allons-nous poursuivre.
Nous allons entendre Édouard Philippe qui était hier soir.
Que au 1er janvier de l'année 2019, l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source. Il ne faut pas confondre exigence et hésitation. Cette bonne réforme, elle est techniquement complexe à mettre en œuvre. Et nous avons été, et je l'assume, le président de la République tout autant que moi, nous avons été exigeants. Nous avons aujourd'hui l'ensemble des réponses aux questions que nous nous posions. Et nous avons la garantie, la certitude, la conviction que cette réforme sera mise en œuvre dans de bonnes conditions pour les contribuables. Et que ça constituera, pour les contribuables, une simplicité d'usage absolument considérable.
Voilà donc la confirmation d'Édouard Philippe hier soir sur le plateau du 20h de TF1. Le prélèvement à la source de l'impôt sera bien mis en place au 1er janvier prochain. C'est la fin d'une semaine de doutes affichés en public, de contradictions au sein même du gouvernement. Après avoir discuté à l'Élysée hier avec le président Emmanuel Macron et le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, Édouard Philippe a donc été chargé de rassurer les Français. Il insiste, Jean-Marc Chardon, sur l'adaptabilité de l'impôt aux contribuables.
À entendre le Premier ministre hier soir, les contribuables trouveront dans le prélèvement à la source une réforme qui leur serait bénéfique dans la mesure où elle doit permettre d'adapter l'impôt à la situation personnelle. C'est la fiscalité qui s'adapte aux contribuables et non l'inverse. Mais de là à penser que c'est le contribuable qui est forcément le vrai gagnant, ce serait aller un peu vite car l'État s'y retrouve aussi en rentrée d'argent. Ensuite, tous les contribuables ne vivront pas la réforme sur le même tempo. En prenant l'exemple des nouveaux retraités, ceux qui partiront au début de l'année prochaine, Édouard Philippe a fait valoir l'avantage qu'ils allaient en tirer du fait qu'ils verseront des impôts non plus sur les revenus d'activité de l'année précédente, mais de leur pension, moins élevée par définition. Pointer l'avantage que vont en tirer ceux dont les revenus baissent, l'argument est imparable. Cela étant, que représente la population qui prend sa retraite d'une année à l'autre? Ce n'est guère que 600 000 personnes. Une proportion infime ramenée aux 37 millions de foyers fiscaux et même rapportée aux 17 millions de contribuables qui sont imposés. Même si l'on y ajoute les nouveaux chômeurs avec des indemnités inférieures à leurs revenus précédents, ça ne fait pas une majorité de bénéficiaires de la réforme. En revanche, ceux dont les revenus progresseront verront eux leur imposition augmenter. Ceux-là ont moins lieu de se réjouir, quand bien même le chef du gouvernement y voit un dispositif mieux adapté.
Merci Jean-Marc Chardon et précision par ailleurs sur cet impôt à la source. Pour les contribuables qui bénéficient de crédits d'impôt, source de critiques ces derniers jours, eh bien ces contribuables se verront verser au 15 janvier prochain une avance de 60% de ces crédits sur la base de la situation fiscale de l'année précédente. Ce taux devait initialement être de 30%. Je me tourne à présent vers le chef du service politique de France Culture, Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Pendant une semaine, Emmanuel Macron a fait part de ses doutes quant à cette réforme du prélèvement de l'impôt. Finalement, il reprend la main grâce à ce que l'on peut appeler, Stéphane, une orchestration médiatique.
Une orchestration médiatique, oui. Alors attention, il ne s'agit pas de parler d'enfumage. Emmanuel Macron et le chef du gouvernement n'ont pas tout inventé. Il y a eu vraisemblablement de réelles inquiétudes sur la mise en œuvre de ce prélèvement à la source, sans doute très compliqué à mettre en œuvre. Maintenant, sont-elles apparues ces inquiétudes récemment ou bien un peu plus tôt, quelques mois auparavant? Toujours est-il qu'il y a quelques vertus, quelques avantages pour le pouvoir en place à en faire état aujourd'hui. Ça permet d'abord de faire la pédagogie de cette mesure dont on parlait assez peu médiatiquement. Une réforme fiscale, ça n'a rien de passionnant. À Bercy, on nous confirme que cet épisode a permis de parler et d'expliquer les choses comme jamais auparavant, à un moment où les appels téléphoniques commençaient à se multiplier auprès des services fiscaux. Et puis l'autre vertu est politique. Pour le président de la République, ça permet de montrer aux Français que la machine Macron n'est pas en panne, qu'elle continue à avancer, que le chef de l'État est aux commandes, qu'il anticipe les difficultés quand les choses changent, bref, qu'il veille au grain. Mieux encore, ça lui permet de remettre un peu les pendules à l'heure dans une période un peu difficile pour lui. Depuis quelques semaines, beaucoup de choses paraissent lui échapper. L'affaire Benalla, la réforme des institutions, la démission de son ministre le plus emblématique, Nicolas Hulot. Économiquement aussi, le ciel s'assombrit et il y a donc quelque chose d'assez habile dans l'orchestration médiatique qui s'est déroulée là. Ça permet à Macron de montrer qu'il maîtrise encore un certain nombre de choses.
Mais l'opposition, Stéphane, précisons-le, n'y voit évidemment aucune habileté. Le gouvernement est dans la confusion, le brouillage le plus total, disait hier soir le porte-parole du Rassemblement National. Au parti Les Républicains, on continue de voir en cette réforme une diminution du salaire net. Alors vous restez avec nous, Stéphane Robert, puisque nous continuons d'analyser les annonces faites hier au sommet de l'État et ce troisième remaniement du gouvernement Édouard Philippe, poste pour poste. La championne de natation Roxana Maracineanu remplace Laura Flessel au ministère des Sports. Laura Flessel ayant démissionné hier pour des raisons personnelles, fiscales a priori. Et puis François de Rugy, président de l'Assemblée nationale depuis 14 mois, prend la place de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique et solidaire. Stéphane, cette fois, contrairement au prélèvement de l'impôt, Emmanuel Macron l'a subi ces changements.
Oui, ce remaniement conclut un nouvel épisode politique difficile pour le président de la République sur lequel il n'a finalement eu que très peu de prise. Il n'a vraisemblablement pas choisi de se séparer de la ministre des Sports Laura Flessel, qui semble être en délicatesse avec le fisc. Et surtout, il n'a pas choisi de faire partir Nicolas Hulot. Celui-ci a démissionné. Et pour lui, le départ de Nicolas Hulot, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que potentiellement, le départ de Hulot, c'est un énorme coup de canif dans ce qui est l'essence même du macronisme, à savoir le en même temps. Avec Nicolas Hulot, Macron pouvait à la fois redresser l'économie française et être crédible en matière d'environnement. Et le problème est qu'il n'avait personne sur le banc de touche avec autant de charisme et de crédit auprès des Français pour le remplacer. Il a donc tout fait pour minimiser l'énorme difficulté que constitue la démission de son ministre. Il procède à un remaniement à minima. Il ne remplace que Nicolas Hulot et Laura Flessel, personne d'autre. Et puis, il détourne un peu l'attention avec le prélèvement d'impôt à la source. Ça lui permet de contrebalancer un peu seulement la mauvaise passe que traverse le président.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Penchons-nous à présent et plus précisément sur les dossiers concrets qui attendent François de Rugy à la transition écologique. À commencer, Véronique Robérotte, par le nucléaire, sujet laissé en suspens par son prédécesseur.
En quittant le ministère de l'écologie, Nicolas Hulot s'est un peu lâché sur le nucléaire. Une folie inutile, économiquement et techniquement, dans laquelle on s'entête. L'ex-ministre avait très mal vécu l'an passé d'avoir annoncé lui-même que la France ne pourrait pas tenir l'objectif de ramener la part de l'atome de 75 à 50% dans notre production d'électricité à l'horizon 2025. La part du nucléaire sera au cœur de la feuille de route énergétique de la France, présentée le mois prochain, dossier hautement sensible dont hérite François de Rugy, qu'on ne peut pas qualifier de pro-nucléaire. Candidat à la primaire de la gauche l'an passé, il souhaitait la fin du nucléaire en France à l'horizon 2040. D'autres dossiers tout aussi sensibles sont sur la table, la loi mobilité pilotée par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, ou quelle volonté de la part du gouvernement de réduire la place de la voiture dans notre société et la pollution de l'air. Le budget du plan vélo est déjà depuis quelques semaines source de tension. Il n'est pas exclu que l'exécutif profite aussi du départ de Nicolas Hulot pour avancer sur des dossiers auxquels s'opposait l'ex-ministre sur la mine d'or de Guyane, la montagne d'or. Nicolas Hulot n'en voulait pas, qualifiant le projet de miroir aux alouettes. Si le feu vert de l'État est donné, la mine située au cœur de l'Amazonie produirait 7 tonnes par an pendant 12 ans. Le projet, le soutien du président Macron.
Voilà pour les dossiers qui attendent François de Rugy. On l'a compris, le nucléaire d'abord. Alain Finkielkraut, philosophe, membre de l'Académie française. Vous êtes l'invité des Matins de France Culture. Peut-on ou faut-il arrêter le nucléaire ?
Ce n'est pas une question simple. La politique et l'écologie dans la politique, c'est une affaire de dilemme. On a le choix entre plusieurs biens possibles ou un bien et un moindre mal. Les écologistes veulent interdire le nucléaire. Mais le nucléaire est une énergie propre. Les Allemands l'ont arrêté et ils ont relancé la production de charbon, ce qui a des effets sur l'environnement dévastateurs. Et je connais un écologiste, Jean-Marc Jancovici, qui dit au contraire qu'il faut, en la maîtrisant, appuyer l'énergie nucléaire. C'est le seul moyen de répondre aux urgences écologiques du moment. Je ne trancherai pas, je dirais simplement que il faut, en cette matière, éviter les postures.
Merci Alain Finkielkraut. Nous vous retrouvons dans 5 grosses minutes après ce journal pour parler écologie, conditions animales dans les matins de France Culture. Voilà pour le dilemme de François de Rugy, nouveau ministre de la Transition écologique. Et déjà les critiques fusent et les doutes pleuvent depuis hier. La gauche et les Verts reprochent notamment à François de Rugy d'avoir manigancé au printemps dernier pour que le glyphosate ne soit pas interdit en France. Au jeu des chaises musicales, qui maintenant pour remplacer de Rugy au perchoir de l'Assemblée nationale ? Richard Ferrand, chef de file de La République En Marche et candidat, tout comme la présidente de la commission des lois de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, ainsi que la députée de l'Isère, Sandra Motin. L'exécutif évoque un effroyable gâchis, un système injuste et inefficace. Le numerus clausus pourrait disparaître sur décision du gouvernement. Il s'agit d'un système de sélection, vieux de plus de 45 ans, qui permet de limiter le nombre de médecins en France grâce à un concours hyper sélectif en fin de première année. Eh bien, le gouvernement pourrait annoncer sa suppression d'ici 2 semaines, selon nos confrères de France Info. En juin dernier, 15% des candidats seulement avaient pu passer en deuxième année. La sélection, l'UNEF la dénonce à propos de la plateforme Parcoursup. Les étudiants qui n'ont pas encore fait leur choix pour le supérieur ont jusqu'à ce soir minuit pour le faire, pour les valider. Le ministère affirme que 9000 jeunes n'ont toujours pas eu de réponse positive. Et puis en bref, encore des perquisitions sont en cours dans l'Oise et à Paris ce matin au domicile de plusieurs membres de la famille de Redouane Faïd. Le braqueur multirécidiviste s'est évadé de prison le 1er juin dernier et il reste jusque-là introuvable.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le leader catalan Quim Torra appelle à de fortes mobilisations dans les semaines à venir.
Et notamment le 11 septembre, mardi prochain, lors de la fête nationale catalane. Quim Torra faisait hier son discours de rentrée à Barcelone et il avertit Madrid qu'il ne compte rien lâcher pour obtenir l'indépendance de sa région, Mathieu de Taillac.
C'était l'occasion parfaite de répondre au président du gouvernement espagnol. Pedro Sánchez, lundi dernier, avait proposé de soumettre un référendum en Catalogne, une réforme de son statut d'autonomie. Quim Torra veut bien un référendum, mais a-t-il répondu un référendum sur l'indépendance, comme le 1er octobre 2017, mais cette fois-ci avec le feu vert de Madrid et son engagement à respecter le résultat.
Président Sánchez.
Monsieur le Président, le débat en Catalogne n'est pas celui d'un statut d'autonomie. Nous travaillons pour une seule chose, un référendum d'autodétermination autorisé par Madrid, décisionnel et reconnu internationalement.
On sait déjà que pour Sanchez, c'est hors de question, car inconstitutionnel. Le président catalan, lui aussi, le sait. Aussi compte-t-il redoubler la mobilisation. Il a annoncé un nouveau type de manifestation.
Inspiré par le référendum du 1er octobre et par les luttes pour la liberté que nous gardons tous en mémoire, comme par exemple celle de Martin Luther King pour les droits civils, je propose une marche pour les droits civils, sociaux et nationaux de la Catalogne. Une marche de citoyens qui prennent librement la détermination d'être un peuple constituant.
Luther King, pas moins. Nelson Mandela a également été convoqué par Quim Torra, qui a voulu donner des accents épiques à son discours quand il a évoqué le référendum et la déclaration d'indépendance il y a presque un an, ou encore la situation des dirigeants politiques placés en détention provisoire. Nous n'accepterons pas d'autres décisions que leur acquittement, a déclaré le président régional. L'automne promet d'être chaud en Catalogne.
Mathieu de Taillac, depuis Madrid pour France Culture. L'Argentine cherche un nouvel accord avec le Fonds monétaire international. Il y a 3 mois, elle obtenait un prêt de 50 milliards d'euros. Aujourd'hui, le pays demande au FMI une avance pour garantir le paiement de sa dette. Hier soir, Christine Lagarde, la présidente du FMI, déclarait être prête à aider l'Argentine. La corruption toujours au Brésil, après l'incarcération de Lula, déclaré inéligible ce week-end à la présidentielle, eh bien le parquet de l'État de Sao Paulo met en accusation Fernando Haddad, le colistier et probable remplaçant de Lula à la présidentielle. Lui est accusé de faits présumés de corruption liés à sa campagne pour les municipales en 2012. La situation à Idlib, dernier bastion rebelle syrien, fera l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dans 2 jours, vendredi. L'annonce a été faite par l'ambassadrice américaine Nikki Haley. Elle a d'ailleurs voulu se montrer claire face à une éventuelle offensive syrienne et russe à Idlib.
La situation à Idlib est sérieuse. Oui, la Russie pointe du doigt l'opposition, les casques blancs et d'autres. Bachar el-Assad fait pareil. Et ça, c'est exactement la stratégie qu'ils observent avant que le régime syrien n'ordonne une attaque chimique contre son propre peuple. Les Syriens ont vécu trop de drames, c'est une terrible situation. S'ils veulent tous continuer à renforcer leur emprise sur la Syrie, soit. Mais en aucun cas, ils ne peuvent le faire avec des armes chimiques. Ils ne peuvent pas s'en prendre aux civils et on ne va pas rester les bras croisés devant une telle situation. Si des armes chimiques sont utilisées, nous savons déjà qui en sera responsable. Je pense que vous avez lu les déclarations du président Trump mardi. Ne nous obligez pas à répondre. Il a été clair, si des armes chimiques sont utilisées, les États-Unis répondront.
Les États-Unis qui, parallèlement, négocient toujours avec le Canada pour sauver l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a prévenu hier, Ottawa tiendra bon et ne signera pas un nouvel accord sans le maintien du mécanisme de règlement des litiges, sans le maintien également de l'exception culturelle qui protège notamment le marché audiovisuel et culturel canadien. Et puis les médias locaux japonais évoquent ce matin 9 morts et 340 blessés après le passage d'un typhon sur l'archipel, des inondations, des véhicules emportés à cause des rafales de vent de 200 km/h. Les scènes ont été impressionnantes, il y a évidemment de nombreux dégâts matériels. En France, il pleut ce matin sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Partout ailleurs, le temps sera en majeure partie nuageux. Dans l'après-midi, des orages sont attendus sur les Pyrénées, sur la frontière franco-belge. Les températures comptez ce matin 17 degrés à Brest et Dunkerque, 20 à Paris, 22 à Strasbourg, 23 degrés à Bordeaux, Lyon, 26 tout de même ce matin sous le soleil niçois.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.